Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, le numéro 48 de notre partenaire, la revue trimestrielle Moyen-Orient, est consacré à l'État d'Israël. Il s'interroge aussi bien sur l'état de la démocratie dans ce pays que sur la question de l'immigration, le dossier sécuritaire, la naissance d'une opposition politique arabe unie, mais aussi la situation économique et les manifestations de rejet aussi bien des partis politiques actuels que de la colonisation, voire du projet d'annexion annoncé. Parmi les nombreux articles intéressants et très documentés, Orient Hebdo a choisi d'évoquer les colons avec l'urbaniste et géographe Irène Salançon. Un entretien réalisé par Mathias Golchani à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Irène Salançon.
Bonjour Éric Bataillon.
Géographe et urbaniste, chercheuse associée au Centre de recherche français de Jérusalem, vous publiez dans le nouveau numéro de la revue Moyen-Orient, notre partenaire, un article sur les colons israéliens. Irène Salançon, vous l'affirmez dès le début de l'article, l'image du colon est loin d'être monolithique, car à l'origine, en 1967, il ne s'agit pas de conquérir du territoire, mais de protéger l'existence, c'est cela ?
Oui, voilà, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié. Donc, l'État d'Israël qui a été créé par une résolution des Nations Unies, a été tout de suite confronté à des situations de guerre avec les pays voisins, et notamment en 1967, au moment de la guerre des Six Jours. Et donc la première préoccupation, puisque donc l'État d'Israël se trouvait en situation de guerre avec les pays voisins, la première préoccupation c'était de défendre le territoire. Et les premières colonies qui n'étaient pas vraiment des colonies, en réalité c'était des bases militaires, et elles étaient en particulier le long de la vallée du Jourdain, puisque donc c'était la ligne qui faisait face à la Jordanie.
Donc cette région était en quelque sorte une zone tampon militarisée.
Voilà, c'était une zone tampon et donc alors progressivement les militaires qui habitaient ont accepté la venue de certaines familles ou bien ont commencé à vivre et à cultiver en fait dans la vallée du Jourdain, mais au départ c'était vraiment des bases militaires, oui.
Mais quand est-ce que les choses ont changé et surtout pour quelles raisons ?
Alors peut-être aussi ce qu'on doit dire qui est important, c'est que donc le territoire de l'État d'Israël est petit. Quand vous avez parlé de zone tampon, c'était à peu près 10 km de large le long de la vallée du Jourdain. Le territoire d'Israël, il est plus petit que la Bretagne. Alors ça, c'est dans les frontières reconnues internationalement. Et c'est une bande, en fait, littorale. Sur cette partie qui est plus petite que la Bretagne, on a deux tiers de désert, le désert du Negev. Et la bande littorale elle-même, elle fait entre 15 et 20 kilomètres de large. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement au moment de la guerre de Kippour, qui a été considéré comme une défaite parce que l'armée israélienne a été prise par surprise et a dû céder des positions. Et donc, à ce moment-là, l'État d'Israël était depuis le départ dirigé par des mouvements travaillistes de gauche, et donc il y a eu une montée en puissance des courants politiques de droite, qui voulaient conquérir plus de territoire, aussi pour des raisons religieuses, mais on y reviendra. Et les préoccupations défensives étaient encore là, mais un petit peu différentes, c'est-à-dire c'était pas comme en 1967, de façon provisoire, le long de la vallée du Jourdain ou le long des autres frontières avec Égypte et Syrie. Là, il y avait notamment la volonté de défendre Jérusalem. Et donc, c'est intéressant de regarder des cartes parce que donc j'ai dit qu'il y avait cette bande littorale de 15 à 20 kilomètres de large. Et ensuite, Jérusalem, elle se trouve dans la chaîne montagneuse. Enfin, ce sont des collines du cœur de la Cisjordanie. Et du coup, le territoire, la bande littorale, elle est reliée à Jérusalem par une route, en fait, qui est bordée de points hauts. Et là, il y a eu beaucoup de combats où donc les ennemis jetaient des projectiles sur les convois qui passaient sur cette route. Donc en fait, les premières colonies, après la guerre de Kippour, c'était aussi dans le but de défendre cette route, donc à proximité de la frontière ligne verte, et Jérusalem, autour de Jérusalem, qui est un peu un cul-de-sac en fait, hein, dans cette route.
Mais alors, vu de Paris, ou d'Ankara, ou de Rabat, enfin, vu de loin, en quelque sorte, on a l'impression qu'il y a des colonies à peu près partout en Cisjordanie. Est-ce la réalité du terrain ?
Non, alors voilà, en tout cas, ne font pas toutes la même taille. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai dit que le territoire d'Israël était, la superficie était petite, celle de la Cisjordanie encore plus, hein, c'est la taille du département du Calvados en France. Donc, de toute façon, même si les colonies ne sont pas réparties de façon égale sur tout le territoire, c'est un petit territoire, la Cisjordanie. Là, on parle plus de la bande de Gaza puisque les colonies israéliennes ont été démantelées. Mais sur la Cisjordanie, il y a d'ailleurs un géographe qui s'appelle Julien Boussac, qui a fait une très belle carte qui s'appelle l'archipel de Palestine. Palestine. Et on voit qu'en réalité, à cause des colonies et du contrôle israélien, il y a très peu... En fait, les zones qui sont contrôlées par les Palestiniens sont comme des petites îles. Mais néanmoins, les grosses colonies israéliennes sont celles de Jérusalem-Est, autour de Jérusalem, donc là on peut avoir des quartiers jusqu'à 20 000 habitants, et près de la frontière, c'est-à-dire près de la ligne verte qui sépare Israël de la Cisjordanie. C'est là qu'on a les plus grosses. Dans le cœur de la Cisjordanie, c'est des plus petites.
Pourquoi justement avoir choisi de construire ces colonies aussi près du reste du territoire israélien ?
Alors, il y a toutes les grosses colonies qui entourent Jérusalem, et là c'était quand même à la base dans un but défensif, hein, notamment Malé Adoumim, Givat Zev, c'est vraiment les plus grosses colonies aujourd'hui. Il y a jusqu'à 35 000, 40 000 habitants. Et ensuite, c'est celles qui sont assez proches de l'agglomération de Tel Aviv, en fait des centres d'emploi qui sont pour la plupart sur la plaine littorale. Et donc ça permet à des personnes d'habiter dans ces colonies qui sont des colonies dites de banlieue et qui se trouvent donc à 15 km de leur lieu d'emploi, donc proches de la ligne verte. Et c'est vrai qu'on trouve dans ces colonies-là des personnes qui sont attirées par un coût du logement vraiment moindre, c'est moitié moins, voire un tiers de moins, les prix de l'immobilier, qui n'ont souvent pas une volonté idéologique d'habiter en Cisjordanie, et ça leur fait moins peur. C'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez. Les Israéliens ont peur, en fait, de vivre à côté des Palestiniens, y compris en Israël. Et donc, ça leur fait moins peur d'être proche de la frontière.
Mais est-ce que dans ces colonies, dans ces quartiers, il y a des colons ultranationalistes, comme on peut en voir parfois dans les reportages ?
Alors, ultra-orthodoxe ou ultra-nationaliste, là, il faut faire la différence. Alors, donc, les ultra-orthodoxes, les Haredim en hébreu, ne sont pas nationalistes, la plupart, il y a un courant nationaliste, mais la plupart des ultra-orthodoxes, donc des très religieux, ce qu'on voit dans la série Netflix Unorthodox aux États-Unis, je simplifie à l'extrême, mais dans leur croyance religieuse, ils attendent l'arrivée du Messie pour créer un État juif, hein. Donc ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël comme étant légitime parce que c'est un État laïque, hein. Eux, ils voudraient un État vraiment religieux. Et donc, ces personnes-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que la plupart des hommes ne travaillent pas parce qu'ils se consacrent à l'étude des textes religieux. Et donc, on trouve presque la moitié de la population ultra-orthodoxe qui est sous le seuil de pauvreté. Et donc, ils vont habiter dans les colonies parce que le coût du logement est moins élevé. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'habitent pas en Israël, à l'ouest de la ligne verte. Il y a aussi beaucoup d'ultra-orthodoxes à l'ouest de la ligne verte, mais ils sont attirés par le coût du logement moindre. Et donc, il y a des grosses colonies qui sont maintenant peuplées majoritairement par des ultra-orthodoxes, oui.
Et alors, justement, les ultra-nationalistes sont-ils, eux aussi, dans ces colonies ou peut-être plus loin sur le territoire cisjordanien ?
Voilà, ils ne sont pas dans les mêmes colonies. Donc, on dit sioniste religieux ou sioniste nationaliste. Donc, ça correspond à un parti politique en particulier, enfin il y a plusieurs partis, mais voilà, le parti sioniste religieux, et eux, ils sont plutôt dans des colonies qui sont proches des grandes villes palestiniennes, avec cette idée de conquête de ce qu'on appelle dans la Bible le territoire de la promesse, donc l'ensemble de Eretz Israël, donc qui inclut la Cisjordanie, et donc eux, ils ne sont pas proches de la frontière, en fait, ils vont près des localités palestiniennes avec l'idée de progressivement conquérir l'ensemble de la Cisjordanie.
Et ces colonies qui sont si proches finalement de la ligne verte et d'Israël, est-ce qu'elles ont également vocation à revendiquer un territoire à annexer, comme par exemple à Jérusalem-Est ?
Alors là, peut-être, il faut faire la différence entre ce que veulent les habitants et ce que veulent les partis politiques. Alors, pour Jérusalem, c'est particulier. La question de Jérusalem est probablement le lieu où il y a plus de convergence entre ce que pense la majorité des habitants et les différents partis politiques. Donc, Jérusalem-Est, ce qui était important pour l'État d'Israël après 1967, c'était d'avoir le contrôle sur la vieille ville, qui jusqu'alors, jusqu'en 67, était contrôlée par les Jordaniens, pour l'accès au lieu saint, et notamment au mur occidental qu'on appelle en Occident le mur des lamentations. Et donc, les quartiers israéliens qui ont été construits à Jérusalem-Est visaient à protéger cette souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est. Et ça, il y a un consensus de la majorité de la population pour garder la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de la Cisjordanie. C'est-à-dire que la population la plus modérée et les partis de gauche, en général, n'ont pas de revendications territoriale sur l'ensemble de la Cisjordanie, puisqu'ils sont favorables à un État palestinien indépendant. Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI avec Éric Bataillon.
Et avec Irène Salançon, géographe et urbaniste, chercheuse associée au Centre de recherche français de Jérusalem. Et nous parlons de votre article publié dans la revue Moyen-Orient sur les colons israéliens. Alors, Question, comment ces colonies, qu'elles soient d'ailleurs aussi près de Jérusalem-Est ou de la ligne verte, ou alors plus loin en territoire cisjordanien, comment ces colonies sont-elles financées et par qui ?
Alors c'est très difficile d'avoir des informations sur ce sujet, mais ce qu'on sait, ce que les chercheurs ont montré, c'est que donc il y a beaucoup de fonds qui viennent de fondations privées, sionistes, et notamment de fondations qui sont installées aux États-Unis. Ce qu'on sait peu, c'est que le courant évangéliste américain finance aussi, aide aussi les colonies. Bon, il y a plusieurs organisations. Et puis, bien sûr, en Israël, il y a aussi des députés et des partis politiques qui sont favorables à la colonisation et qui vont apporter des financements. On s'est beaucoup interrogé sur les financements publics. Est-ce que l'État finance ? Alors, donc, pour les colonies de Jérusalem-Est, clairement, c'est financé par le ministère du Logement et ensuite les routes, les réseaux, etc., par les ministères en charge des infrastructures. Pour la Cisjordanie, en fait, ça dépend des colonies, mais certaines ont été aussi financées avec les fonds du ministère du Logement. Ouais.
Et selon les sources de financement, est-ce que l'on peut dire que certaines colonies sont plus ultranationalistes que d'autres ? On peut les distinguer ?
Oui, puisque donc certaines ont reçu l'approbation de leur existence après avoir été implantées, parce qu'elles ont été implantées par des mouvements privés.
Parlez-nous des avant-postes. De quoi s'agit-il ? Il y en aurait une centaine aujourd'hui, c'est ça ?
Voilà, il y en aurait une centaine aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de plus récent. C'est apparu après le processus de paix, donc qui a démarré en 94-95. Et plus le processus de paix a ralenti, a connu des échecs, etc., plus il y a eu d'avant-postes. C'est-à-dire qu'il y a eu, on peut dire, une radicalisation vraiment de groupuscules au sein de mouvements sionistes religieux. Et on parle des mouvements de jeunesse sionistes et on les appelle les jeunes des collines, puisque donc à partir de colonies qui existaient, qui sont des petites colonies qui accueillent 2000, 3000 habitants, ces mouvements de jeunesse sionistes ont installé des mobilhomes sur des collines à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de la colonie d'origine, avec vraiment le but d'étendre le contrôle territorial. Et ce, sans autorisation ni de l'armée israélienne, ni du gouvernement. Donc depuis lors, depuis le ralentissement du processus de paix, ils ont été l'objet de beaucoup de médiatisation d'ailleurs, mais beaucoup de tractations, c'est-à-dire à chaque fois que le gouvernement israélien a voulu montrer qu'il faisait des progrès dans le processus de paix, il a démantelé des avant-postes qui ont été reconstruits immédiatement. Et d'autres fois, à l'inverse, il les a régularisés. Donc actuellement, le gouvernement Netanyahou, c'est un gouvernement de droite qui soutient une partie de la colonisation, il y a plutôt une tendance à la régularisation de ces avant-postes.
Mais est-ce que ces jeunes des mouvements des collines ont des actions particulières dans leur environnement proche de ces postes avancés ?
Oui, d'ailleurs, il y a peut-être des chercheurs qui écrivent là-dessus en ce moment. C'est vraiment intéressant parce que une fois de plus, on regarde les actions les plus extrêmes, mais c'est très paradoxal. C'est-à-dire que donc il y a eu des actions violentes de la part de ces mouvements de jeunes, en particulier lorsqu'il y a eu des attaques contre les colons israéliens qui sont installés dans le cœur de la Cisjordanie se déplacent sur des routes et ils subissent des attaques. Ils sont attaqués au fusil, il y a des morts, etc. Donc parfois en représailles, ces mouvements de jeunesse ont à leur tour attaqué des Palestiniens qui étaient à proximité. Il y a même eu des morts. Mais on peut trouver aussi, et ça c'est vraiment intéressant, dans les dernières avancées, il y a des avant-postes qui sont des fermes agricoles et qui vont cultiver par exemple des olives, qui vont faire de l'huile d'olive exactement comme leurs voisins palestiniens. Et dans le discours, ceux-là peuvent dire qu'ils s'entendent très très bien avec leurs voisins agriculteurs palestiniens qui cultivent la terre comme eux, etc. Donc on voit les deux tendances en réalité.
Mais ce sont des tendances parallèles, ce sont des tendances d'amitié ou ce sont des tendances de façade ?
Oui, ça c'est très compliqué. De toute façon, c'est quelque chose qui a été étudié dans la construction de l'identité israélienne. Il y a une fascination pour le lien à la terre et à l'agriculture des Palestiniens, qui est un lien qui s'est fait dans une continuité historique. Et donc, ça participe de ce qu'on appelle l'orientalisme. Donc, il y a une volonté de mimétisme de la part de ces jeunes Israéliens. Donc, je pense pas que ce soit purement de façade. Il y a une volonté vraiment de mimétisme et parfois une volonté de coexistence pacifique, mais sous souveraineté israélienne. C'est ça qui est paradoxal, puisque ça ne correspond pas à ce que souhaite la population palestinienne. Mais je pense qu'il y a a une espèce de, c'est à la fois un discours et à la fois un rêve pour les sionistes religieux parfois, qu'il y aurait une possibilité d'avoir une souveraineté israélienne sur la Cisjordanie en vivant en bonne entente, en bonne intelligence avec les voisins palestiniens. Ça ne correspond pas du tout à ce que souhaite la population palestinienne. C'est ça qui est problématique.
Irène Salençon, finalement, est-ce que l'objectif initial de peuplement juif en Cisjordanie, est-ce que cet objectif est atteint ou pas?
Non, il n'a pas été atteint. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on sait peu, parce que finalement, quand on se focalise sur la progression de la colonisation, les faits et les chiffres montrent que celle-ci progresse hein, en termes d'habitants, en termes de construction de logements. C'est des milliers de nouveaux logements dans les colonies qui sont construits chaque année. Mais cependant, au démarrage de la colonisation, donc dans les années 70, hein, après la guerre de Kippour, comme j'ai expliqué, donc il y avait un mouvement qui existe encore, qui s'appelle le Gush Emunim, le bloc des croyants. Et eux, ils ont vraiment fait du lobbying, du plaidoyer pour peupler de façon massive la Cisjordanie par des habitants juifs israéliens. Et donc, ils visaient dans leurs plans, qui sont publics, hein, qu'on peut consulter, ils visaient jusqu'à 2 millions d'habitants juifs israéliens en Cisjordanie. Il y a actuellement 3 millions d'habitants palestiniens. Et en réalité, aujourd'hui, en 2020, on en est à, en Cisjordanie, 430 000 colons israéliens. Donc, par rapport à 2 millions, ça n'a pas marché. Mais on peut y ajouter donc les 220 000 qui habitent à Jérusalem-Est. Donc, au total, on est à 600 000. Donc, les objectifs n'ont pas été atteints. Et c'est en particulier parce que les Israéliens, à part pour les colonies qui sont proches de la frontière, ont peur d'aller habiter en Cisjordanie et n'ont pas ces visées nationalistes comme le courant sioniste religieux.
Mais après les annonces du gouvernement Netanyahou d'une annexion de la Cisjordanie, enfin en tout cas d'une partie, est-ce que le programme de colonisation risque de changer à l'avenir et quel pourrait être son nouveau visage s'il y en a un et sa conséquence aussi sur le conflit?
Oui, ce qu'on a vu récemment donc avec le projet d'annexion soutenu par l'administration Trump, c'est à quel point l'importance en fait de l'orientation politique du gouvernement américain pouvait avoir sur la colonisation et sur la résolution du conflit israélo-palestinien. Donc bien sûr, c'est difficile aujourd'hui de faire de la prospective, il faut attendre le résultat des élections américaines, ça peut changer du tout au tout. Pour l'instant, le soutien de l'administration Trump à l'annexion d'environ 30% de la Cisjordanie par le gouvernement Netanyahou, c'est le plus loin où était allée l'administration américaine. Donc si ça continue, c'est-à-dire si Trump est réélu, si Netanyahou reste au pouvoir, la situation ne va pas s'améliorer vers une régression de la colonisation. Au contraire. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que les colons israéliens, les sionistes religieux, donc les plus nationalistes, se sont opposés au plan de l'administration Trump parce qu'ils estimaient, en fait, ils voulaient avoir plus de territoire. Hein. Donc, ils se sont opposés pour cela. Pas tous, certains. Il y a une division même au sein des sionistes religieux. Et donc, il peut y avoir des blocages comme ça, malgré bien que l'administration américaine soutienne le maximum qu'elle n'ait jamais fait en termes de possibilités de conquête de territoire par Israël. Il peut y avoir des oppositions de la part des colons eux-mêmes qui voudraient plus. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Ça dépend beaucoup de l'administration américaine. Les courants de gauche aujourd'hui en Israël, il y a des contestations très fortes contre le gouvernement Netanyahou. Mais le Parti travailliste et les courants de gauche israéliens sont très affaiblis. Hein. Ils n'ont pas le soutien de la majorité de la population. La majorité de la population israélienne soutient le gouvernement Netanyahou et les mouvements de droite. Et ce qui, à mon sens, peut avoir une influence, ce sont les questions démographiques, puisque donc les ultra-orthodoxes et les sionistes religieux qui habitent en Cisjordanie ont des indices de fécondité très élevés. Ils ont beaucoup d'enfants, même souvent supérieurs à la moyenne de ce qu'on peut trouver dans les États du Moyen-Orient, hein, les États environnants, y compris chez les musulmans. Ils ont eu des indices de fécondité plus élevés que chez les Palestiniens musulmans, hein, entre 5 et 7 enfants par femme. Et donc, on peut imaginer que si tous ces enfants-là veulent rester en Cisjordanie, la colonisation va progresser dans le sens voilà, de plus de conquêtes de territoire.
Merci Irène Salençon.
Merci Éric Bataillon.
Géographe et urbaniste, je rappelle votre article publié dans le dernier numéro de notre partenaire Moyen-Orient, la revue trimestrielle. Qui sont les colons israéliens en Cisjordanie avec un point d'interrogation. Merci. Musique du